encore. Merci. Amen.
Amen. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous revoir. Une assemblée qui est attentive à la louange et à la parole de Dieu. Alors, j'avais prévu aujourd'hui de vous parler d'un sujet. Et puis, patatrac, hier après-midi, j'ai tout changé. Vous savez, c'est un peu comme l'apôtre Paul, il voulait aller en Turquie, puis à un moment donné, le Saint-Esprit ne permet pas. Et puis, voilà, il a fallu tout refaire. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est la parole de Dieu, et je pense que Dieu nous parle au travers de sa parole, d'une manière ou d'une autre. Mais on n'y prend pas garde, disait Job. Donc, que ce matin, nous puissions prendre garde à ce que Dieu veut nous dire. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu. Pour commencer, on va faire quelques lectures dans le livre d'Esther. J'ai la petite zapette là, non ? Ou c'est toi qui le fais ? Elle est en dessous. Ah oui. On va prendre donc le livre d'Esther, un certain nombre de passages. On ne peut pas tout lire. On va lire à partir du verset 5. Si le roi juge bon, dit-elle, donc c'est Esther qui parle, et si j'ai obtenu sa faveur, si la chose convient au roi, et si je lui plais, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Haman, fils de Hammedatha, l'Agagite, et rédigées dans le dessein de faire périr les Juifs de toutes les provinces du roi. Comment pourrais-je donc rester indifférente à la vue du malheur qui menace mon peuple ? Oui, comment pourrais-je rester indifférente à la vue de la disparition de ma lignée ? On va prendre au verset 8. Vous maintenant, donc ça c'est le roi Assuérus qui parle, l'époux de la reine Esther, vous maintenant, écrivez au nom du roi ce qui vous paraîtra le plus favorable aux Juifs, et scellez-le du sceau royal, car un texte écrit au nom du roi et scellé du sceau royal est irrévocable. Verset 10, on écrivit les lettres au nom du roi Assuérus, on les scella du sceau royal et on les envoya par l'intermédiaire des courriers à cheval, montant des purs sangs à Actran sélectionnés. Le roi autorisait les Juifs de toute ville à se rassembler pour défendre leur vie, à exterminer, à tuer et à faire périr toutes les troupes populaires ou provinciales qui les persécuteraient, y compris les enfants et les femmes. Et on va prendre... Il pouvait les piller pour en prendre du butin. Ceci en un seul jour dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13 du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Il y avait une copie du texte pour communiquer à chaque province l'édit qui devait être rendu public parmi les peuples, afin que les Juifs se tiennent prêts ce jour-là à tirer vengeance de leurs ennemis. Les courriers montant des purs sangs à Actran sortirent à bride abattue par ordre royal et l'édit fut communiqué à Suse, la capitale. Mardoché se retira de la présence du roi en vêtements royaux, violets et blancs, avec une grande tiare d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse était en liesse et en joie. Les Juifs étaient rayonnants de joie, d'allégresse et de triomphe en chaque province, en chaque ville, en tout lieu atteint par l'ordre et l'édit du roi. Il y eut parmi les Juifs joie et allégresse, festins et jours de fête. Beaucoup se firent Juifs parmi les gens du pays, car la terreur des Juifs les avait saisis. Et on va prendre au chapitre 9, à partir du verset 15, on va sauter au verset 15. Les Juifs de Suse se rassemblèrent donc aussi le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent 300 hommes sans se livrer au pillage. Les autres Juifs, ceux des provinces royales, s'assemblèrent pour défendre leur vie et se garantir contre leurs ennemis. Ils tuèrent 75 000 de leurs adversaires sans se livrer au pillage. Le 13e jour du mois d'Adar, en repos le 14e, ils en firent un jour de festin et de joie. Quant aux Juifs de Suse, ils se rassemblèrent le 13 et le 14. En repos le 15, ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs Péraz, ceux qui habitent des villes ouvertes, font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où chacun envoie des cadeaux à son voisin. Mardoché, donc ça c'est l'oncle d'Esther, écrivit ces choses dans des lettres qu'il envoya à tous les Juifs de toutes les provinces du roi Assuérus et auprès et au loin, pour qu'ils observent l'institution du 14e jour du mois d'Adar, ainsi que du 15e d'année en année, à l'exemple de ces journées où les Juifs s'étaient garantis contre leurs ennemis, en ce mois où leur chagrin s'était changé en joie et leur deuil en fête, ils devaient en faire des jours de festin et de joie où chacun envoie des cadeaux à son voisin et des dons aux pauvres. Les Juifs firent une tradition de leur célébration initiale et des consignes de Mardochée. Car Haman, fils de Hammedata l'Agagite, adversaire de tous les Juifs, avait projeté de faire périr les Juifs. Il avait jeté le pour, c'est-à-dire le sort, pour les tourmenter et les faire périr. Mais lorsqu'Esther se présenta devant le roi, celui-ci ordonna par écrit que le mal qu'il avait projeté contre les Juifs retombe sur sa tête et qu'on le pende à la potence ainsi que ses fils. C'est pourquoi on a appelé ces jours-là Pourim, d'après le mot « pour ». Ainsi, en vertu de tous les événements rapportés par cette lettre, de ce qu'ils en avaient vu et de ce qui leur était arrivé, les Juifs instituèrent une tradition irrévocable pour eux, pour leur descendance et pour ceux qui se joindraient à eux. On célébrerait ces deux journées selon le mode prescrit et au temps fixé d'année en année. On garderait le souvenir et la célébration de ces journées de génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province, dans chaque ville. Ces jours de Pourim sont irrévocables chez les Juifs, leur souvenir ne se perdra pas chez leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abishai et le juif Mardochée, écrivirent avec toute leur autorité afin de confirmer ces secondes lettres de Pourim à tous les Juifs des 127 provinces du royaume d'Assuérus. On envoya des lettres, messages de paix et de fidélité. Ces jours de Pourim furent institués à leur date à l'occasion de leur jeûne et de leur clameur, comme le juif Mardochée et la reine Esther les avaient institués pour les Juifs eux-mêmes et pour leurs descendants. L'histoire d'Esther institue le rituel de Pourim. C'est pourquoi elle est écrite dans ce livre. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Une lecture un petit peu longue, mais pour souligner que cette semaine, donc ce mardi soir, les Juifs du monde entier ont célébré cette fête de Pourim, encore aujourd'hui, 2500 ans après, ils ont célébré cette fête. C'est une fête majeure pour les Juifs, et c'est la seule fête religieuse qui n'est pas d'origine lévitique. Vous savez que dans le Lévitique, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, Dieu leur a donné la Torah, hein, les enseignements, et il avait institué un certain nombre de fêtes, la Pâque, la Pentecôte, la fête des cabanes, Yom Kippour, etc. Il y a un certain nombre de fêtes, hein, dont trois majeures où les Juifs devaient se rendre, tous les hommes devaient se rendre à Jérusalem pour adorer le Seigneur dans le temple. Mais Pourim, c'est une fête religieuse qui est rajoutée en quelque sorte, qui a été rajoutée. Et si Dieu a permis qu'elle soit rajoutée dans le canon des Écritures, qui ont été scellées par les Juifs, c'est parce qu'il doit y avoir un sens spirituel. Non pas que Dieu ait malencontreusement, quand il a donné la Torah, j'ai oublié de leur donner Pourim. Non, Dieu n'oublie pas. Hein ? C'est une fête d'expérience, en fait, Pourim, en quelque sorte. Et Dieu a prévu qu'il en soit ainsi. Il doit y avoir une signification spirituelle. Donc on va essayer de creuser un petit peu tout ça. On va regarder ce qui se cache là derrière. Alors vous savez qu'il y a d'autres fêtes juives aussi qui ont été ajoutées. Par exemple, la fête de Hanouka, hein, qui se fête un petit peu avant Noël, mais qui est plutôt considérée comme une fête historique. Ce n'est pas une fête religieuse, c'est une fête historique pour commémorer la purification du temple qui avait été profané par Antiochus Épiphane. C'est l'épisode des Maccabées. Voilà, je n'insiste pas trop. Alors, en parallèle, cette semaine, vous n'êtes pas sans savoir, sans écouter les informations, a été lancée aussi une offensive majeure, hein, contre les Iraniens. Hein, et dans la courte histoire du peuple d'Israël, parce que finalement Israël a été déporté de son pays en 70 après Jésus-Christ, et ils ne sont revenus que presque 2000 ans plus tard, en 1948. Et dans cette courte histoire, depuis 1948, le peuple d'Israël a engagé cette semaine une offensive contre un ennemi qui a juré son anéantissement, c'est l'Iran des Mollahs. Hein, vous le savez, vous écoutez les informations. Et on verra que Pourim, hein, est en lien avec une offensive aussi, à l'époque, contre un ennemi qui avait juré la perte du peuple juif du temps d'Assuérus. Ça se passe entre 483 et 471, on ne sait pas exactement à quelle période. On connaît le règne d'Assuérus, qu'on appelle aussi Artaxerces. Et il y avait eu donc une volonté de ce fameux Haman de tuer l'ensemble du peuple juif. Alors, quelques règles juste de rappel de la fête de Pourim. Hein. Il y a ce qu'on appelle quatre mitzvot. Vous savez, les mitzvot, c'est les commandements, les commandements qui ont été rajoutés à la loi par les Juifs. Il y en a un certain nombre, 621, je crois. Il y a des positifs, des négatifs. C'est un peu comme des décrets d'application. Vous savez, il y a la loi, et puis il y a tous les décrets d'application, pour parler en langage moderne. Donc il y a quatre mitzvot, d'accord, dans la fête de Pourim. Il y a l'écoute du rouleau d'Esther. Ils lisent le rouleau d'Esther le soir et le lendemain matin. Vous savez que la journée commence le soir chez les Juifs, donc le 13 au soir. Le deuxième, c'est envoyer des cadeaux non alimentaires à des amis, faire des dons aux pauvres. Et puis, il y a un temps de fête, de célébration, d'accord, qui se déroule. Et peut-être vous avez vu des images, c'est Marie-Laure qui m'en parlait hier, des images de Juifs qui ont célébré Pourim dans les souterrains, parce qu'ils sont tous aux abris, ils sont bombardés. Mais ils célèbrent quand même la fête de Pourim. Ils sont déguisés, alors on verra un peu plus tard la signification. Hein. Mais c'est une fête qui concerne toute la famille. D'accord, les adultes, les enfants, et les gens se déguisent. Ils se déguisent, et à chaque fois qu'on lit le rouleau d'Esther et qu'on cite le nom d'Aman, ils agitent une petite crécelle. Hein, voilà. Alors ce déguisement, là aussi il y a une symbolique. Pourquoi est-ce que ce déguisement ? Alors là, il faudrait lire le livre d'Esther. J'espère que tout le monde a lu au moins une fois le livre d'Esther. Si vous ne l'avez pas lu, ce n'est pas grave. Vous relisez, ça se lit comme un roman. Il faut à peu près 20 minutes pour le lire. Il doit y avoir une dizaine de chapitres. Mais pourquoi les gens se déguisent ? Parce qu'en fait, Esther a caché son identité juive. Quand elle est devenue reine, on le verra tout à l'heure, je passerai un bref résumé du livre d'Esther, mais quand Esther est devenue reine, elle a caché au départ son identité, donc ça montre, il y a une espèce de masquage, hein. Elle a dissimulé qui elle était, qu'elle était du peuple juif, elle n'a révélé ça qu'à la fin. Hein. Et donc c'est pour ça que les juifs aujourd'hui se déguisent 2500 ans après, vous voyez, on a lu dans la parole de Dieu, hein, qui est le canon des écritures, vous avez toute l'institution de la fête avec tous les détails, tout ce que je vous dis là, eh bien ça a été formalisé. Alors, juste deux mots sur le livre d'Esther, hein, parce que Pourim nous vient du livre d'Esther, c'est un livre très particulier, hein, ça fait partie des rouleaux. Vous savez, quand Jésus parle aux disciples d'Emmaüs, quand il leur dit « tout ce qui est marqué de moi dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes ». Alors dans les psaumes, ce n'est pas que les psaumes, c'est toute la partie qui n'est pas la Torah et toute la partie qui n'est pas historique. D'accord ? Donc les rouleaux d'Esther font partie de ce qu'on appelle les psaumes que Jésus citera aux disciples d'Emmaüs. Vous lisez ça dans la fin de l'évangile de Luc. Et la particularité du livre d'Esther, c'est que le nom de Dieu n'est pas... C'est le seul livre où le nom de Dieu n'est pas cité. On n'entend pas parler de Dieu, le nom de Dieu n'apparaît pas. Mais en fait, le nom de Dieu est en filigrane, il est sous-entendu quand on comprend le livre d'Esther, il est sous-entendu. Hein. C'est comme si Dieu se cachait finalement. Vous voyez, Esther, elle cache son identité, Dieu se cache dans le livre d'Esther. Hein. Et c'est d'ailleurs la signification du nom d'Esther. Hein. Le nom d'Esther a plusieurs significations. Ça vient aussi de la déesse Ishtar, la déesse babylonienne. Donc elle a en quelque sorte une identité. Donc elle a adopté un patronyme correspondant à son environnement. Mais le nom d'Esther signifie également ce qui est caché. Hein, ça signifie ce côté mystérieux. Donc, vous voyez, Dieu ne se révèle pas, Dieu se cache. Esther se cache, elle cache son identité au début. Il y a toute une symbolique derrière. Alors, historiquement, donc, le peuple, ça se passe donc en 483, 471, pendant le règne d'Assuérus. Le peuple juif a été exilé à Babylone jusqu'en 530 à peu près. Et puis après, il y a un tout petit contingent qui est revenu sous Zorobabel, mais la plupart des juifs qui ont été exilés en 585 sont restés sur place, ils sont restés à Babylone. Et puis après, Babylone a été conquis par l'Empire perse, donc ils se sont dispersés dans l'Empire perse. C'était le grand empire de l'Antiquité après Babylone, 127 provinces, il y avait des juifs dans toutes les provinces, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Et ce règne d'Assuérus, c'est un règne qui est marqué par l'apparence. Vous voyez, d'un côté, on a quelque chose qui se cache, la vérité se cache, mais le règne d'Assuérus, c'est l'apparence. On veut en mettre plein la vue. C'est un monde qui est vide de sens. C'est un monde qui est rythmé par des festins. Vous lirez, il y a des festins interminables qui durent des journées et des journées. On dépense des sommes folles, hein, du pain et des jeux. Hein. On amuse la population. Et il y a énormément de festins. Mais c'est un monde d'apparence, un monde artificiel. C'est un monde qui est creux, qui est vide. D'accord ? C'est un monde brutal où c'est la loi du plus fort qui domine. C'est un monde d'intrigue aussi. On le voit avec Amant qui monte en puissance, qui à un moment donné a de la haine pour les Juifs. En fait, c'est un peu notre monde, quelque part. C'est un peu notre monde. Vous voyez, 2500 ans plus tard, rien n'a changé. C'est un monde où le but, c'est de survivre. Surtout quand on est minoritaire comme le peuple juif. Et pour ça, il y a deux moyens pour le peuple juif de survivre quand on est en exil. Le premier moyen, c'est la sagesse et la ruse. Il faut être sage. Et nos deux héros, Esther et Mardoché, eh bien, ils en auront bien besoin de cette sagesse pour essayer de déjouer les complots parce qu'ils sont minoritaires. Et puis le deuxième moyen, et ça c'est un enseignement pour nous qui vivons dans ce monde creux et vide dans lequel on vit, eh bien, c'est de compter sur la providence de Dieu. D'accord ? Compter sur la providence de Dieu. Tout à l'heure, Dino nous a proposé un chant d'exo qui nous dit « ta main souveraine ». D'accord ? Donc la providence de Dieu, c'est la souveraineté de la main de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, on croit que Dieu est souverain. Même si Dieu se cache dans le livre d'Esther, il est souverain. Rien ne lui échappe dans l'ensemble des événements qui se déroulent. Et Esther, donc comme pas mal d'autres femmes de la Bible, Esther, c'est quelqu'un de courageux, elle symbolise donc ce courage de survie d'Israël dans les moments les plus difficiles, hier et aujourd'hui. Et l'enjeu du peuple d'Israël aujourd'hui, c'est un enjeu de survie. C'est le seul peuple qui a vraiment un enjeu de survie. Enfin, il y en a d'autres quand même. Le peuple iranien a un enjeu de survie aussi. Mais les Juifs particulièrement, le peuple d'Israël, a un enjeu de survie aujourd'hui. D'accord ? Alors, quelle est l'origine de Pourim ? Alors, si on résume un petit peu le livre d'Esther, si vous ne le connaissez pas. Hein, donc, le roi Assuérus, il cherche une nouvelle reine, d'accord ? Parce que la précédente a été destituée. Et il choisit Esther, qui est la nièce de Mardoché, cette jeune fille qui est exilée du royaume judéen. Hein, elle gagne un concours de beauté, elle devient Miss Univers, en quelque sorte, si on veut comparer avec notre époque. Elle devient Miss Univers et le roi la choisit au détriment des autres, d'accord ? Et son oncle Mardoché, donc son père adoptif, puisqu'elle est orpheline, il lui recommande de ne pas identifier, de ne pas dévoiler son identité juive. Hein. C'est un conseil de sagesse, de prudence de la part de Mardoché, parce qu'il y a un ennemi qui rôde. Il doit pressentir ça, il y a un ennemi qui rôde, et il faut être très très prudent. Alors, le véritable nom d'Esther, c'est Hadassa. D'accord ? En hébreu, ça signifie myrte. Alors le myrte, hein, c'est une plante aromatique qui pousse en Orient, qui est un symbole de paix, de beauté, de prospérité. Donc il y a tout un message aussi dans ce nom d'Esther, Hadassa. Hein. Et le mot Esther, on a vu que ça venait aussi du persan, et ça signifie étoile. Vous voyez, donc étoile, reine de beauté, symbole de paix, de prospérité. Il y a tout un message derrière qui est véhiculé par ce texte. Ce que je vais vous dire ce matin, c'est qu'il y a vraiment énormément de symbolique, et à nous de comprendre cette symbolique et de faire le lien. Je vous demanderai de faire le lien avec l'époque actuelle. Je vous ai déjà cité des événements qui se passent aujourd'hui, parce qu'il y a une cohérence dans la main de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse comprendre ce matin cette cohérence dans la main de Dieu. Et donc l'histoire se déroule, et Mardoché, donc, qui est à la cour du roi, il est un serviteur, il refuse de se prosterner devant ce fameux Amant, conseiller du roi. Et Amant est furieux et il décide donc une solution finale, une extermination de tous les peuples juifs en envoyant donc un sceau scellé du roi. Et ça en est fini donc des espoirs du peuple juif dispersé dans les sept provinces. Mais il y a un détail. Ce fameux Amant, il va donc décider l'extermination des juifs, mais il va essayer de choisir une date. Et il va utiliser un moyen qui s'appelle le tirage au sort. Et dans le langage de l'époque, ça s'appelle le pour. D'accord ? Le pour, il va tirer au sort à quelle date je vais lancer l'extermination des Juifs. Le pour. Voilà, ça vient de tirage au sort. Et Haman décide donc de cette date. Il se fie au hasard parce que Haman pense que le hasard gouverne le monde. Lui qui est le favori du roi, le Tout-Puissant, il pense que le hasard gouverne le monde. Et grâce au courage d'Esther, qui va risquer sa vie, hein, on ne lira pas le texte, mais vous le lirez, eh bien, elle va risquer sa vie pour son peuple. Le projet d'Haman va finalement se retourner contre lui. Et le jour du massacre, qui était censé être un jour de deuil pour les Juifs, va se transformer en un jour de joie pour ce peuple, le 14 du mois d'Adar. D'accord ? Un jour de joie pour le peuple. Et là aussi, on verra, il y a toute une symbolique là derrière. Parce que Pourim, c'est une fête chargée de symbolique, qui influe sur le cours de l'histoire. Déjà, elle a tout de suite été adoptée par le peuple juif, elle a tout de suite été célébrée dès la première année. Et c'est vraiment, Pourim, c'est vraiment la fête de la délivrance et du salut. C'est le passage de la détresse à la joie. Et souvenez-vous, quand Jésus était avec ses disciples dans la chambre haute, il leur dit « Vous êtes maintenant dans la tristesse, comme une femme qui va accoucher, mais votre tristesse se changera en joie. » Vous comprenez la symbolique qu'il y a dans ce texte. Il faut savoir aussi, selon la tradition juive, que c'est au cours du mois d'Adar qu'est né Moïse. Moïse qui sera le sauveur du peuple d'Israël, qui a été envoyé par l'Éternel pour sauver le peuple. Mais c'est aussi le lendemain de Pourim, donc le 16 du mois d'Adar, qu'est revenu de Babylone, un peu plus tôt, le premier contingent des exilés, la première colonne d'exilés menée par Zorobabel. Hein, on le lit dans le livre d'Esdras et de Néhémie. D'accord ? Donc, ça se passe autour de Pourim aussi. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de Pourim. C'est aussi la veille de Pourim. Je vous ai parlé d'Antiochus Épiphane. Antiochus Épiphane avait un général qui s'appelait Nicanor. Et Nicanor a rassemblé une armée, c'était un général syrien à l'époque qui entourait, donc on est en 161 avant Jésus-Christ, hein, les Séleucides qui dominaient la région, hein, vous savez, le royaume d'Alexandre a été partagé en quatre, hein, et Séleucus, un de ses généraux, a pris la partie israélo, enfin tout la Jordanie, tout ça. Et donc ce général Nicanor, sous les ordres d'Antiochus Épiphane, s'apprêtait à envahir le royaume d'Israël, d'accord ? Et en face, il y avait une toute petite armée qui était menée par Judas Maccabée, d'accord ? Qui n'avait aucune chance. Et ce jour-là, Judas Maccabée a quand même obtenu la victoire. Alors on se demande comment, hein ? Si bien que ce jour-là, la veille de Pourim, eh bien, non seulement l'armée syrienne a été défaite par le petit groupe mené par Judas Maccabée, mais le général a été tué. Et les Juifs ont rajouté à la fête de Pourim, qu'ils la célèbrent aujourd'hui, ce qu'on appelle le Yom Nicanor, c'est-à-dire la veille de Pourim, ils célèbrent le Yom Nicanor, le jour où ils ont tué ce général et ils sont restés maîtres. Hein, les Maccabées, ça a donné ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, la fête de Hanouka. Donc vous voyez que Pourim est entouré d'une symbolique historique, et ce n'est pas fini. Vous savez que c'est le jour de Pourim que la garde républicaine de Saddam Hussein pendant la guerre du Golfe a été décimée. Et si la garde n'avait pas été décimée, si l'armée de Saddam Hussein avait attaqué Israël, bah, il y aurait eu la même situation qu'en 161. Et puis je vous l'ai dit, pas plus tard que cette semaine, eh bien, il y a cette offensive israélo-américaine qui a été lancée dans le temps de Pourim. Donc vous voyez que Pourim est une fête chargée de symbolique. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Quel est l'intérêt pour nous? Ben, je crois que aujourd'hui, les prophéties bibliques sont en train de se dérouler sous nos yeux. Mais on n'y prend pas garde, parce qu'on est sur un nuage où on ne lit pas la parole de Dieu, où on ne comprend pas les prophéties. Vous voyez, dans le livre de Jérémie, je vous ai pris ce passage parce que c'est intéressant. Voilà ce qu'écrit Jérémie au chapitre 16. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Ça, c'est l'Exode qu'on connaît bien, c'est la délivrance, la liberté du peuple d'Israël. Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Septentrion. Septentrion, c'est le nord. De tous les pays où il les avait chassés, je les ramènerai dans leur pays que j'avais ordonné à leur père. Vous voyez, là, il y a ce qu'on appelle un télescopage de prophétie. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la prophétie qui concerne la sortie d'Égypte, et la deuxième partie, eh bien, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Vous voyez, les enfants d'Israël montent du pays du Septentrion. Il faut savoir que pour rassembler les Juifs, la création de l'État d'Israël en 1948, il y a énormément de Juifs qui sont venus de Russie. Il y avait beaucoup de persécutions en Russie, il y avait beaucoup d'antisémitisme, et il y a eu un exode massif de Juifs russes qui sont venus s'installer en Israël. Pour ceux qui ont visité Israël, vous rencontrez régulièrement, vous entendez parler russe dans les provinces de... Parce qu'il y a des gens qui sont venus encore et qui perpétuent cette tradition. Donc, Jérémie 14, c'est littéralement déroulé et s'est réalisé en 1948. Il y a eu un rassemblement des Juifs, miraculeusement, après 2000 ans, il y a eu un rassemblement. D'accord ? Donc, il y a eu effectivement un premier exil. Les Juifs sont partis en Babylone en 586. Il y a eu un retour partiel, mais il y avait encore des Juifs disséminés dans tous les pays. Et cet exil à Babylone n'est qu'une préfiguration de ce rassemblement final. Et quand on lit les prophéties bibliques, quand on lit l'Apocalypse, quand on lit le livre de Daniel, eh bien, nos oreilles commencent à tinter parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce retour d'Israël dans son pays, c'est quelque chose qui annonce vraiment les temps de la fin. C'est un retour progressif, ça continue encore aujourd'hui. Il y a des tas de Juifs français qui ne se sentent pas en sécurité, qui partent en Israël. Et c'est un signe d'accélération. Ces derniers temps, il y a une accélération, un accroissement de la population par rapport à 1948, où ils étaient vraiment tout petits. Mieux encore, dans le chapitre 49 de Jérémie, dans sa prophétie sur les nations, on va le lire, Jérémie va parler d'Élam. Alors Élam, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Peut-être si vous lisez le chapitre 2 des Actes, comme on l'a lu cette semaine dans le cadre de lire la Bible ensemble, au chapitre 2 des Actes, on apprend qu'il y avait, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, il y avait des gens, des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des gens d'Élam. Écoutez ce que Jérémie dit sur Élam. On va lire Jérémie chapitre 49 à partir du verset 35. Je ne voulais pas afficher, parce que je l'ai rajouté encore ce matin, le PowerPoint était déjà fait. C'est pas grave, hein, on lit la parole de Dieu, c'est pareil, c'est pas affiché, c'est pas catastrophique du tout. Regardez, Jérémie chapitre 49, verset 35. Donc ça c'est le chapitre donc 49 de Jérémie, les prophéties contre les nations. Voici la parole de l'Éternel adressée au prophète Jérémie sur Élam au commencement du règne de Sédécia, roi de Juda, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici que je brise l'arc d'Élam, prémisse de sa vaillance. Je ferai venir sur Élam quatre vents des quatre extrémités du ciel. Je les vannerai à tous ces vents et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des exilés d'Élam. Je ferai trembler les Élamites devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux un malheur, l'ardeur de ma colère. Oracle de l'Éternel. Élam, c'est la partie est de l'Iran actuel, qui se trouve juste à l'angle de l'embouchure, j'aurais dû mettre une carte, juste à l'angle de l'embouchure du golfe Persique. Il se trouve que c'est une des parties où est concentrée aujourd'hui la majeure partie de la défense anti-aérienne et iranienne. Voilà, j'en dis pas plus. Donc pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je vous ai dit, la prophétie biblique est en train de se dérouler sous nos yeux. Donc prenons-y garde. La deuxième raison pourquoi je vous en parle, c'est parce que la fête de Pourim, c'est la perpétuation du lien avec le temps d'Esther. Il y a un lien. Aujourd'hui, Dieu semble absent de notre monde contemporain, comme dans le livre d'Esther. Dieu se tait. Il semble ne plus intervenir dans les affaires du monde. D'ailleurs, les hommes l'ont en majorité évacué de la sphère publique. On a par exemple supprimé la référence aux racines chrétiennes de la Constitution européenne. On promeut la laïcité qui confine la religion à la sphère strictement privée. Et puis il y a les lois multiples sur la vie et la mort. Les lois sur l'avortement, les lois sur la fin de vie, je n'insiste pas là-dessus. Et donc parce que Dieu semble absent et n'intervient plus, Dieu se tait. Si Dieu se tait, ce n'est pas parce que Dieu est faible. On pense, le méchant pense, Dieu se tait, Dieu ne voit pas. C'est ce qui est écrit dans le psaume 73. Dieu ne se tait pas, mais Dieu retient pour l'instant sa colère. Et de ce fait, les humains s'adonnent à une idolâtrie de plus en plus importante. Ils se confient au sort, au pour, le hasard. Dieu n'est pas là, c'est le hasard qui gouverne le monde. Comme du temps de Haman. Comme du temps de Haman, l'Agagite. Vous savez pourquoi on l'appelle Agagite ? Parce que c'est un descendant d'Agag. Vous vous souvenez d'Agag ? Ça vous dit quelque chose ? Dans la Bible ? Agag, quand Samuel demande à Saül de massacrer les Amalécites, de tuer tous les moutons et de tuer le roi Agag, Saül dit « Non, non, mais c'est bon, je ne tue pas le roi Agag et puis je garde les moutons pour faire des sacrifices. » C'est ce qui a valu la destitution. Relisez le livre de Samuel. Donc l'Agagite, Agag, c'est Saül qui l'a épargné. Et Agag, c'est un descendant d'Amalek. Amalek, vous vous souvenez, Réphidim, Israël sort, et Amalek attaque Israël par derrière. Vous connaissez l'épisode. Moïse sur la montagne, Aaron et Hur qui lui tiennent les mains. Quand les mains sont levées, Israël est vainqueur. Quand les mains sont baissées, Israël perd. Et le texte du livre d'Exode nous dit « Parce que la main d'Amalek a été levé contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Donc vous voyez que Haman fait partie d'une lignée d'opposants au peuple qui continue encore au travers des âges. Et aujourd'hui, il y a encore des opposants, des gens qui veulent la fin d'Israël. Et Dieu semble absent. Alors les gens consultent le hasard, ils consultent les horoscopes, et puis on élabore des théories, la théorie de l'évolution. D'accord ? En 1970, le biologiste Jacques Monod a publié ça, « Le hasard et la nécessité », vous connaissez ce livre, pour ceux qui ont fait au moins des facs de bio. Donc tout vient du hasard. La vie est née dans une éprouvette avec quelques molécules qui se sont mélangées, l'être humain est juste le fruit de l'évolution. Donc c'est le hasard qui conduit le monde. Et le livre d'Esther, quand vous le lirez, pourrait être vu comme une succession de hasards dans l'évolution de la cour de l'Empire d'Assuérus. Tout ça comme si Dieu n'existait pas. Mais nous, en tant que chrétiens, on sait que Dieu existe, qu'il est là, que le hasard n'existe pas. Même si Dieu se cache dans le livre d'Esther, sa main puissante agit en coulisses. Et en tant que chrétiens, nous on appelle ça la providence. Vous savez, la providence de Dieu, il y a cette citation qui parfois est attribuée à Einstein, je ne sais pas exactement si c'est lui ou si c'est un autre Albert Schweitzer qui a dit ça, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. D'accord ? Donc le hasard, c'est une grande idole de notre temps. Tout est bon pour évacuer Dieu, on attribue tout au hasard. Et tout le livre d'Esther, pour quelqu'un de non initié, semblerait être un fruit du hasard, avec une succession invraisemblable de coïncidences qui nous font dire à nous chrétiens, oui, le nom de Dieu n'est pas dans le livre, mais Dieu est omniprésent. Parce que c'est par hasard que la reine Vasti est destituée et que Esther, ça laisse la place libre à Esther. C'est par hasard que Esther trouve grâce aux yeux du roi. C'est par hasard que Mardoché entend parler d'un complot, il déjoue le complot, il sauve la vie du roi. C'est par hasard que le roi a des insomnies, se fait apporter le livre des annales, on lui lit que dans les annales, dans le passé, Mardoché lui a sauvé la vie et il pose la question, mais qu'est-ce qu'on a fait à Mardoché ? Comment on l'a récompensé ? Ah ben on ne l'a pas récompensé. Mais il faut le récompenser, Mardoché. Et comme par hasard, ce matin-là, Haman vient pour réclamer la tête de Mardoché et il commence à être humilié. Vous lirez le livre, pour ceux qui le connaissent. Mais ce n'est pas une succession de hasard, parce que la main de Dieu conduit les temps et les circonstances. J'aimerais que vous en soyez persuadés. La main de Dieu conduit les temps et les circonstances. Nous avons étudié le livre des Hébreux récemment. Hébreux chapitre 1, verset 3 nous dit que Jésus soutient le monde par sa parole puissante. Et aucun amant, aucun mola ironien si puissant ne peut l'empêcher. Et nous avons vu cette semaine, je vous l'ai dit, dans le livre des Actes, comment Dieu conduit par sa parole puissante, comment il conduit par son Saint-Esprit, par les événements, l'apôtre Paul, pour que Paul aille exactement au bon endroit, qu'il passe en Europe, qu'il passe à Philippe, qu'il passe à Thessalonique, qu'il soit persécuté, qu'il aille à Bérée, pour nous donner un exemple, que les Béréens vérifient dans la parole de Dieu, ce texte qu'on cite tout le temps, vérifiez toujours ce qu'on vous dit quand il y a un prédicateur, quel qu'il soit, moi le premier, si je vous donne un verset ou si je vous dis quelque chose, vérifiez si ce que je dis est vrai. Parce que je peux me tromper, comme tout le monde. Et donc Dieu a conduit l'apôtre Paul, et il l'a même fortifié. Il savait à quel moment l'ange devait apparaître pour le fortifier. Voilà le Dieu qu'on sert. C'est un Dieu qui maîtrise toutes choses, même s'il n'est pas visible. C'est un Dieu en qui on peut faire confiance. Dans notre groupe de partage, on a deux personnes qui ont vraiment témoigné de la puissance de Dieu dans leur vie, se sont confiées dans le Seigneur, dans des circonstances difficiles, et Dieu a répondu. Et c'est cette main de Dieu qui va aboutir aussi à la naissance de Jésus-Christ. Et la vie de Jésus-Christ, sa trahison, sa mort, sa résurrection, sa glorification à la droite de Dieu, tout ça, ce n'était pas le fruit du hasard. C'était le plan de Dieu qui se déroulait pour le salut de l'humanité, pour que nous soyons sauvés, libérés, comme l'a dit Dino, libérés du péché, libres de pouvoir l'adorer et restaurer donc cet état initial du jardin d'Éden qui n'est pas encore restauré. Mais aujourd'hui, on attend la venue du Seigneur, voilà, avec beaucoup d'espérance, parce que Dieu rétablira toutes choses. Dieu n'est pas silencieux, Dieu n'est pas absent, Dieu va revenir, Jésus va revenir, il va nous enlever, d'accord ? Et il va restaurer toutes choses, il rendra justice. Tous ceux qui pleurent seront consolés. C'est un plan cohérent qui va aboutir au retour de Jésus-Christ, comme il y a eu un plan cohérent pour sauver le peuple juif du temps d'Esther, comme il y a eu un plan cohérent pour que Jésus vienne mourir sur la croix, lorsque les temps furent accomplis. Est-ce que vous comprenez tout ça ? Pourim, c'est la fête du salut. C'est le passage de la détresse à la joie. Dieu qui a voulu le salut du peuple du temps d'Esther a aussi voulu notre salut par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour toi personnellement, là. Il est venu pour pardonner ton péché, pour que tu viennes à lui dans la repentance, en confessant tes fautes. Il t'accordera le pardon, il t'accordera la vie éternelle et une place dans le ciel. Dieu a voulu notre salut par Jésus-Christ, et il y a toute une symbolique dans cette histoire d'Esther. Parce qu'Aman, le méchant, il a été pendu au bois de la potence qu'il avait préparé pour Mardoché. Il a été élevé, Aman, le méchant, l'Agagite, a été élevé au bois pour que Mardoché puisse rayonner. Et il y a un parallèle là. C'est que Jésus, lui, qui n'était pas méchant, qui était juste, lui aussi a été attaché au bois de la croix. Il est devenu malédiction pour nous, nous dit l'Épître aux Galates. Il est devenu malédiction pour que nous puissions être déclarés justes devant Dieu. Et le salut de Dieu, c'est aussi Jésus le juste élevé à la croix qui a dit avant de mourir, « Lorsque moi j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et beaucoup d'entre nous ce matin ont été attirés par Jésus-Christ. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils ont demandé pardon, ils ont confessé leurs péchés, ils ont reçu le pardon. Mais peut-être certains ne l'ont pas fait encore. C'est pas trop tard, le salut est encore ouvert. On peut passer de la tristesse à la joie. On peut passer de la condamnation au salut. Parce que Romains 8, verset 1 nous dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alors qu'est-ce qu'on peut retenir ? Je vais conclure. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, pratiquement? Trois choses. Trois applications. Première application, Jésus revient bientôt. Même si Dieu semble absent, même si Dieu semble se cacher, il revient bientôt, donc soyons prêts. Je vous en ai parlé début janvier avec cette parabole du juge inique, hein, cette pauvre veuve qui réclame justice et le juge ne semble pas répondre. Cette attente qui dure, il faut qu'on soit prêt. Même si l'attente dure, il faut qu'on soit prêt. On a commencé à lire la parole de Dieu. Je vous encourage vraiment, au nom de Dieu, je vous encourage à rester persévérant dans la lecture que vous faites. On a été super encouragés. 70 personnes se sont inscrites, on était 50 en Zoom. C'est très encourageant. Il y a des gens qui n'ont pas pu le faire, mais continuez à lire la parole de Dieu, même si à un moment donné, il y a des circonstances, vous loupez une lecture, deux lectures, ce n'est pas grave. Continuez à lire la parole de Dieu, parce que c'est comme ça qu'on se prépare. Jésus revient bientôt, nous devons être prêts. Deuxièmement, j'aimerais que vous soyez persuadés qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu, parce que la providence de Dieu, elle est là pour ses enfants. Comme elle a été là pour Esther, pardon, comme elle a été là pour Esther, comme elle a été là pour le retour d'Israël dans son territoire en 1948. La providence de Dieu est là pour nous. Et si tu es là ce matin, c'est que Dieu est en train de te parler. Parce que le plan de Dieu est en train de se dérouler dans ta vie, même si tu ne t'en rends pas compte, même si ça semble caché. À toi de discerner la main de Dieu dans ta vie. Prie le Seigneur pour qu'il t'aide à discerner ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il n'y a pas de hasard. Troisième chose, Pourim et le livre d'Esther nous aident à porter un regard différent sur les événements contemporains, ce qui est en train de se passer dans le monde. Alors ne soyons pas comme les pharisiens à qui Jésus reprochait. Vous savez, il leur disait, vous savez discerner la météo, le ciel, etc. Mais vous ne savez pas discerner les temps, vous n'avez pas remarqué que le royaume de Dieu est au milieu de vous, que le Messie est là devant vous, et vous ne savez pas le discerner. Alors vous savez, vous êtes champion pour la météo, mais pas pour discerner les temps. Alors, soyons, nous, comme les fils d'Issacar, nous dit le livre des Chroniques, qui savaient, eux, ils avaient la connaissance du discernement des temps, notamment quand nous écoutons les informations. Voilà, j'aimerais prier pour conclure. Notre Dieu, merci pour ta parole, pour ce livre qui nous enseigne encore. Je te prie, Seigneur, pour chacun ici, que son cœur soit touché, qu'il comprenne en quoi tu es en train de leur parler. Ta parole nous dit, par la bouche de Job, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons pas garde. Aide-nous, Seigneur, à prendre garde à ce que tu es en train de nous dire. Nous avons besoin de ta grâce encore, ta main souveraine, affermis nos pas, nous l'avons chanté. C'est vrai, Seigneur, c'est ta main souveraine qui nous garde. Et c'est elle qui nous gardera jusqu'à la fin, parce que Jésus nous a dit que nul ne pourra nous ravir de la main du Père. Quel réconfort, Seigneur. Merci encore. Amen.